solution climat.
C'est chaud, on réclame un peu de pluie pour adoucir la température. La chaleur nous étouffe, les intempéries font ravage. Et on continuera de subir, tant qu'on pensera que le réchauffement climatique est un mythe.
Nos fumées pâlissent l'arc-en-ciel. Il n'y a qu'à soulever la tête. Le ciel n'est plus qu'un hôpital dont les astres sont malades. Les oiseaux volent aux aguets, de peur de se prendre un hypercute de fumée. Toutes nos rivières sont coulées en béton, et c'est ça qu'on appelle modernisation.
Alors levons-nous tous, la planète est en danger. On n'est pas des super-héros, c'est vrai, mais on peut la sauver. Il suffit juste d'adopter des comportements écolos, comme par exemple moins de voitures et plus de vélos.
Solution Climat, votre magazine de l'environnement sur Radio de la Paix. Ghislain Koulibaly.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine Solutions Climat, l'émission qui explore les défis environnementaux et les actions concrètes pour y répondre. Aujourd'hui, nous nous penchons sur un enjeu majeur, la lutte contre la désertification en Côte d'Ivoire, un phénomène qui impacte nos terres, la sécurité alimentaire et le bien-être des communautés rurales. Pour en discuter, nous avons le plaisir d'accueillir deux invités de marque, qui en tout cas mène beaucoup d'actions dans ce domaine. Monsieur Jean Kouadio, point focal de la lutte contre la désertification en Côte d'Ivoire.
C'est ça.
Bonjour.
Bonjour Gislain.
En tout cas, très heureux de vous recevoir une fois de plus dans cette émission. Et puis, bonne année également.
Merci à vous pareil. C'est moi qui suis heureux d'être avec vous.
Oui.
Pour faire la promotion de cette lutte que nous menons depuis des années.
Merci beaucoup. Et vous n'êtes pas seul, nous aurons aussi une voix féminine, mais aussi très 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 percutante dans le domaine, Madame Florencia Adjoumani, secrétaire générale du conseil d'administration de l'ONG Sauvons l'environnement. Bonjour.
Bonjour Ghislain.
Elle est avec vous, on parlera des initiatives et des actions menées sur le terrain, notamment l'implication des communautés locales et à travers votre structure.
Merci Ghislain.
Bonne année.
Merci, bonne année à vous. Mmh. Ravi d'être dans vos locaux ce matin.
C'est cela.
Tous nos vœux les meilleurs.
Merci. Alors, où on en est avec la question de la lutte contre la désertification en Côte d'Ivoire? Quelles solutions concrètes existent? Et comment chacun, de son côté, peut contribuer à préserver nos terres? Alors, on va débuter cet échange, démarrer véritablement avec Monsieur Kouadio, point focal de la lutte contre la désertification en Côte d'Ivoire, et qui va déjà nous planter le décor, le contexte en ce qui concerne cette lutte-là, ici dans notre pays.
Merci Ghislain. Au nom du ministre Assaourou et ministre de l'Environnement, du Développement durable et la transition écologique, je voudrais dire grand merci à Radio La Paix qui chaque fois nous fait l'amitié de nous inviter pour parler de cette lutte que nous menons depuis des années. Alors, la lutte contre la désertification et la sécheresse est un enjeu crucial pour nous, surtout pays en voie de développement, dont le développement est basé sur l'exploitation des ressources naturelles, notamment les sols. Alors, quand nos sols ne sont plus fertiles, quand nous connaissons la sécheresse, il n'y a plus de développement. Le bien-être est affecté. Et donc, il faut lutter contre ces fléaux afin de donner un élan au développement de notre pays, mais aussi un bien-être à nos populations. C'est pourquoi, pays dit forestier, depuis des années, nous avons adhéré à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et la sécheresse, afin d'adresser la question de ces fléaux qui mine au quotidien le développement et le bien-être de nos populations. Qu'est-ce que nous avons fait depuis? Nous aurons l'occasion d'en parler tout à l'heure.
Alors, on parlera bien évidemment des actions menées depuis lors, mais on aimerait avoir quand même une nuance entre la désertification et la sécheresse.
Bon, la désertification, par la désertification, il faut entendre la dégradation de nos terres. Qu'est-ce que la dégradation des terres? C'est la perte de certaines fonctions vitales de ces terres-là, notamment la fonction nutritive. La sécheresse, c'est sa allusion au climat. En fait, quand la température augmente, quand les pluies se font rares, nous faisons face à la sécheresse. Parce que là, les incendies vont s'annoncer. Les incendies que nous voyons très souvent dans les pays comme les États-Unis et même en Côte d'Ivoire ici, nous faisons face à ces incendies qui ravagent des fois des villages, qui ravagent nos plantations, qui ravagent nos végétations, nos écosystèmes. Alors, ces incendies-là sont le fruit, sinon la conséquence de la sécheresse.
Et est-ce qu'il y a des zones en Côte d'Ivoire qui sont plus vulnérables à ces situations?
Oui, il y a des zones qui sont plus vulnérables. Nous avons la zone nord, la zone du centre, mais de plus en plus, ces zones-là s'étendent au sud, où de plus en plus les pluies se font rares, parce que nous avons, par nos activités, détruit la végétation forestière que nous avons, et donc notre écosystème est aujourd'hui vulnérable à tout point de vue, et donc aujourd'hui la sécheresse s'étend un peu partout à travers notre pays.
Voilà, et en face de vos actions au niveau du gouvernement, au niveau gouvernemental, nous avons également la société civile qui agit et qui mène des actions, et c'est la raison pour laquelle nous recevons aujourd'hui Madame Florentia Adjoumani, présidente de l'ONG Sauvons l'environnement, une structure que vous allez nous présenter avant de commencer, bien évidemment.
Merci Justine pour l'opportunité que vous m'offrez. Je suis Florentia Adjoumani, secrétaire générale du conseil d'administration de l'ONG Sauvons l'environnement. C'est quoi l'objectif de l'ONG Sauvons l'environnement? Créée en 2019, l'ONG a pour objectif de protéger l'environnement et de conserver la biodiversité par l'implication des femmes et des jeunes dans le but de leur autonomisation, bien sûr. Notre rôle, c'est de mobiliser les politiques comme M. Kouadio, comme le gouvernement de Côte d'Ivoire, de mobiliser les politiques, les leaders communautaires et les communautés, notamment les femmes et les jeunes, pour l'atteinte de notre objectif à travers les actions comme la conservation de la biodiversité, l'éducation environnementale, les solutions technologiques vertes et les plaidoyers et partenariats.
Alors, et quel rôle spécifique vous jouez dans la lutte contre la désertification en Côte d'Ivoire?
Dans la lutte contre la désertification en Côte d'Ivoire, nous sensibilisons d'abord les communautés sur les méfaits, sur l'implication de nos gestes, nos actions, nos comportements quotidiens à la lutte contre la désertification. Et donc, nous passons d'abord par la sensibilisation, l'éducation pour avoir des comportements éco-citoyens, en passant par la restauration des terres, la restauration des mangroves et la restauration du couvert forestier.
Et vos actions sont étendues sur le territoire national, où il y a des zones spécifiques où vous agissez en ce moment?
Oh oui, nos actions sont étendues sur toute l'étendue du territoire, mais nous sommes précisément présents dans la zone d'Adiaké, où nous avons un site témoin, où tout le monde peut visiter. Là, nous avons lancé le projet de restauration des mangroves dans le village de Ngaloua, plus précisément, dans le village de Melekoukro et Eplan.
Et votre engagement dans la lutte contre la désertification, on va dire, répond à quels besoins spécifiques?
Notre engagement répond à la restauration et à la régénération des terres.
Parce que pour vous, c'est vraiment une action capitale à mener.
Oh oui, parce que sans une terre fertile, nous savons que nous vivons tous de l'alimentation. Donc, si nous ne pouvons pas nous nourrir, il n'aura pas une Côte d'Ivoire, il n'aura pas de vie.
C'est cela. Alors, avec le point focal de la lutte contre la désertification en Côte d'Ivoire, Monsieur Jean Kouadio, on va aborder à présent la question des facteurs, les principaux facteurs qui contribuent à la désertification, par exemple, dans un pays. Et pour le cas de la Côte d'Ivoire, c'est peut-être dû à quoi?
Merci, Ghislain. Alors, nous prenons le cas de la Côte d'Ivoire. Dès notre indépendance, et bien avant même, nous avons axé notre développement sur l'exploitation des ressources naturelles. Du nord au sud, nous avons exploité le bois. Du nord au sud, nous avons fait l'agriculture. Du nord au sud, nous avons fait l'exploitation minière. Toutes ces activités contribuent à la dégradation de nos terres. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas de bonnes pratiques. Nous n'utilisons pas de bonnes pratiques. Nous coupons tout azimut de bois et quand c'est fait, nous ne restaurons pas cette végétation que nous avons décimée. Quand il y a par exemple l'orpaillage, je pourrais même parler de l'exploitation minière, parce que même au niveau industriel, nous ne restaurons pas l'écosystème qui a été dévasté, qui a été détruit. Or, si nous le faisions, après le passage des exploitants, des années plus tard, on aurait une végétation assez abondante. Si nous avions une bonne pratique culturelle, on n'allait pas faire l'agriculture sur de vastes superficies. Et c'est en détruisant notre végétation, notre écosystème sur de vastes superficies qu'on dégrade nos terres. On peut faire l'agriculture sur de petites superficies et avoir un rendement meilleur que si nous la faisions sur des grandes superficies. On pouvait exploiter d'une manière efficiente notre bois, mais nous avons tout décimé et aujourd'hui nous en payons le prix fort. Oui. Sinon, au-delà des activités anthropiques, il y a le changement climatique qui est un des phénomènes de dégradation des terres. Il y a l'érosion. Mais ce qui est primordial, ce qui est le facteur destructeur que nous pouvons noter, le plus grand facteur, c'est le facteur anthropique.
Donc le rôle de l'homme justement face à, on va dire, à ces problèmes là aujourd'hui qu'on vit, hein, à savoir la dégradation des terres en Côte d'Ivoire. Parlons du changement climatique. Comment notamment le changement climatique et les périodes de sécheresse aggravent-ils le phénomène de désertification en Côte d'Ivoire?
En fait, il faut comprendre que c'est un cycle, hein, un cycle infernal. La dégradation des terres entraîne le changement climatique, tout comme le changement climatique entraîne la dégradation des terres. Alors, quand nous avons la sécheresse et que la couverture végétale est absente, les sols s'assèchent. Au lieu d'être fertiles, ces sols vont s'assécher et donc perdre leur fertilité. Ça aggrave donc la dégradation des terres. Donc c'est aussi simple que cela.
L'impact de la déforestation, parce que pour la Côte d'Ivoire, il y a eu vraiment beaucoup de déforestation, vous l'avez expliqué, depuis déjà les années 60 jusqu'à nos jours. La Côte d'Ivoire a perdu, on va dire, une grande partie de son couvert forestier. Alors, quel est l'impact de la déforestation et des pratiques agricoles intensives sur la qualité de nos sols?
Comme j'ai eu à le dire, nos pratiques culturales sont une source de dégradation intense de nos terres. Notre manière de cultiver la terre la dégrade. Nous avons fait l'agriculture itinérante sur Brilly, par exemple, où chaque année, on dévaste une forte parcelle de terre. Et chaque année, ça se répète. Les années se suivent, se ressemblent. Nous avons, par exemple, les incendies qu'on cause pour une question de chasse. Tout cela dégrade nos terres au fil des années. Et ces pratiques ont concouru à la dégradation de nos terres, à la perte de fertilité de nos terres, et donc à l'amenuisement du bien-être des populations. Ce qui va amener ces populations qui ont connu cette dégradation des terres à aller voir ailleurs, à aller chercher ailleurs des terres plus propices. La boucle du cacao qui était à l'est du pays, aujourd'hui se retrouve à l'ouest. Pourquoi ? Parce que nous avons tellement mal utilisé nos terres que ces terres se sont dégradées et donc ces populations qui ont vu leur bien-être s'effriter ont dû aller ailleurs pour mener leur agriculture. Et donc, nos propres pratiques nous ont amenés à ce désastre.
Donc, il y a l'exode, hein, on constate justement hein, que
oui.
ces actions-là sur nos terres encouragent ou, on va dire, facilitent, sont justement à l'origine
des migrations
oui. Des populations.
Tant internes qu'externes. Hein.
Oui. Ça aussi, c'est un phénomène social et sociologique à regarder de près.
Oui, alors, et même, M. Ghislain, je voudrais dire que lorsque nous avons perdu la fertilité des sols dans ces zones-là, les migrations ont amené ces populations à aller dans les parcs et réserves. Et se sont installés dans ces parcs et réserves, ont même construit des écoles, des centres de santé dans ces réserves. Ce que l'État combat aujourd'hui. Voilà.
Donc, y a-t-il aussi la question de l'urbanisation galopante qui peut être aussi un facteur, on va dire, de dégradation des écosystèmes naturels?
Oui, oui, ça c'est sûr, ouais. C'est sûr. L'urbanisation est un facteur de dégradation des écosystèmes. Nous avons par exemple une ville qui s'étend. Quand elle s'étend, l'écosystème aux alentours doit être détruit au profit de la construction de ces routes et des différentes infrastructures liées à l'urbanisation.
Oui. Voilà. Alors, Madame Adjoumani, alors c'est beaucoup de problèmes hein, auxquels nous sommes confrontés, surtout par le comportement des hommes, on dira. Donc, nous sommes nous-mêmes à l'origine de ce qui arrive. Alors, vous, sur le terrain, qu'est-ce que vous faites concrètement? Quelles sont les principales pratiques agricoles ou humaines qui, par exemple, que vous conseillez, hein, qui peuvent être les meilleures pratiques? Et on va dire, de façon générale, comment vous agissez hein, face à cette situation? Quel est le message hein, que vous envoyez justement aux communautés?
Merci, Ghislain. Comme je le disais tantôt, si la population est bien informée et bien éduquée, il y a des actes que nous ne posons plus. Parce que c'est l'homme même qui détruit sa propre nature. C'est l'homme qui est à l'origine de la destruction de notre environnement aujourd'hui. Et je prends l'exemple de Ngalois. Qu'est-ce que nous avons fait concrètement? Nous avons passé 2 années à sensibiliser la population en mettant les femmes en avant. Parce que nous avons constaté que toute la mangrove a été détruite à ce niveau. Qui a détruit? C'est bien les femmes. Parce qu'elles avaient besoin de ça pour leur quotidien, pour faire du bois de chauffe. Les conséquences sont là aujourd'hui. On n'arrive pas à pêcher un seul poisson dans la lagune parce qu'il n'y a plus de mangrove. Nous sommes devant le fait accompli. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut agir. Maintenant qu'elles ont compris, elles-mêmes, elles ont pris sur elles de restaurer la mangrove et de trouver d'autres alternatives pour éviter de détruire, mais plutôt de conserver et de restaurer la mangrove. Donc, la sensibilisation a un rôle essentiel dans ce que nous faisons. Parce que c'est faute d'ignorance, en fait, que la population, et souvent aussi, c'est parce que Et il n'y a pas de solution devant elle. Parce que tu ne peux pas venir devant la population dire arrêtons, arrête de faire ci, arrête de faire ça, sans leur proposer de solution à ce qu'elles vivent. Donc, nous avons proposé des solutions.
Et comment les populations réagissent face à ces propositions-là que vous faites? Et puis, comment est-ce qu'on voit leur implication de façon directe?
Ah, Ghislaine, la question me fait rire parce que ça n'a pas été du tout facile. Je me rappelle dans les débuts, la population ne voulait rien savoir. Quand on parlait de restauration des mangroves, la population était carrée. Mais il a fallu du temps, la patience. Et chaque semaine, chaque week-end, nous y étions pour sensibiliser. Et quand on a bien expliqué, elles ont compris. Elles-mêmes, les femmes et les jeunes, ont pris le projet en main. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'aller sur site pour que ces femmes-là travaillent. C'est devenu leur quotidien. Elles-mêmes, elles remplissent les sachets. Elles cherchent les propagules et elles font même la pépinière elles-mêmes.
Mmh. Alors, je suis curieux de savoir le lien justement entre la préservation ou la conservation des mangroves et la lutte contre la désertification.
La dégradation des terres, il faut protéger nos côtes. Tantôt, M. Kouadio l'a dit, l'érosion côtière, tout ça fait partie de la désertification.
La lutte contre
la désertification. Mmh. Donc, restaurer les mangroves est une partie de la restauration des terres.
C'est cela. Monsieur Kouadio,
oui.
Là-dessus, est-ce que vous pouvez nous expliquer également ce parallélisme, ce lien entre l'action menée par l'ONG Sauvons l'environnement, savoir la conservation de nos mangroves et la lutte contre la désertification?
Nous sommes en phase, hein. Mm-hmm. Nous sommes en phase. Il faut savoir que la lutte contre la désertification et la sécheresse s'étend au-delà de la terre ferme. Parce que
c'est ce qu'on a toujours cru. Hein.
Oui, mais il faut savoir que la mangrove, par exemple, qui va nous permettre d'avoir assez de poissons demain, va faire en sorte que ce que nous combattons sur la terre ferme ici, c'est-à-dire avoir des terres dégradées et avoir donc par conséquent la famine, je dirais l'insécurité alimentaire, mm-hmm. avec la mangrove qui va nous permettre d'avoir du poisson, nous pouvons combattre cette famine-là. Et donc, nous sommes très en phase et nous encourageons l'ONG Sauvons l'environnement à continuer dans ce qu'elle a déjà commencé. Mm-hmm. C'est une très belle initiative et comme on le dit très souvent, les ONG sont le bras séculier de l'État sur le terrain. Nous ne pouvons pas, quand je dis nous, il s'agit de l'État, du gouvernement, nous ne pouvons pas être partout et donc nous avons besoin de leur appui, de leur apport pour pouvoir mener à bien notre combat. Et donc, ce pan de la lutte que mène l'ONG est le bienvenu. Nous les appuierons tant que nous le pourrons pour que, même au niveau du ministère, il y a des projets de préservation de la mangrove. Peut-être que ce n'est pas mené par le service de lutte contre la désertification, mais ça fait partie intégrante des attributions du ministère.
Alors, cette interaction avec également l'autorité publique, voilà, Monsieur Kouadio l'expliquait, il y a une symbiose dans les actions que vous menez. Et à quel niveau est-ce que la synergie, justement, se laisse voir et cette synergie-là permet d'avoir des résultats impactants sur le terrain?
Ghislaine, avant, je voulais ajouter juste quelque chose. Mm-hmm. Les mangroves, la restauration des mangroves est juste un volet de nos activités.
Bien sûr, bien sûr.
Voilà. Sinon, il y a le vivrier qui s'accouple avec la reforestation dans le Zanzan, un projet que nous allons lancer très très bientôt, toujours avec le ministère de l'Environnement. Et pour rebondir sur la question, nous travaillons en phase, comme M. Kouadio l'a dit, nous travaillons avec le gouvernement, avec le ministère des Eaux et Forêts, avec le ministère de l'Agriculture et avec le ministère de l'Environnement, dont nous saluons, avec à sa tête monsieur le ministre Assaoré Jacques Conan, dont nous saluons pour tout l'engagement qu'il prend et tous les moyens techniques qu'il met à disposition dans le cadre de la lutte contre la désertification et la sécheresse.
C'est cela. Alors, on va parler à présent des stratégies et politiques nationales. Alors, quel est l'état des lieux en ce moment en Côte d'Ivoire concernant la stratégie nationale au niveau du ministère de l'Environnement, du Développement durable, la transition écologique?
Merci, Ghislain. Et d'abord, il faut noter qu'il y a un plan d'action national qui existe, qui a été conçu en collaboration avec les populations et qui aujourd'hui adresse le problème de la désertification et de la sécheresse dans notre pays. Notre point faible, pour l'instant, c'est les ressources financières. Vous savez, aujourd'hui, le pays a plusieurs priorités. Et même si la lutte contre la désertification fait partie de ses priorités, son financement n'est pas chose aisée. Nous avons donc besoin d'appui extérieur pour pouvoir mener à bien cette lutte-là. Et nous avons conçu, il y a 2 ou 3 ans, un plan national sécheresse. Ce plan national sécheresse qui adresse les questions de la sécheresse a aussi besoin de financement pour lutter contre les effets nocifs de la sécheresse que nous vivons pratiquement chaque année et qui endeuille des familles, qui endeuille des villages, qui endeuille le pays et qui porte un coup à l'économie nationale. Parce que quand des plantations de cacaoyers, des plantations d'anacardiers brûlent, non seulement les populations qui sont détentrices de ces plantations-là prennent un coup, mais le pays aussi est affecté. Parce que lorsque nous vendons les produits hors du pays, l'économie nationale s'en ressent. Mais quand, avec ces incendies, on n'arrive plus à vendre comme par le passé, ben, l'économie est affectée.
Oui. Alors, donc, il y a des actions qui sont menées au niveau gouvernemental, un vaste plan hein, qui est mis en œuvre. Mais vous avez souligné la question des financements.
C'est ça.
Alors, sur cette question-là, je sais que des grandes rencontres comme les COP permettent justement, sont des occasions hein, de pouvoir aussi rencontrer des partenaires, des bailleurs, mais aussi de mettre en pratique les grandes décisions qui se prennent, puisqu'il y a aussi des acteurs ici dans chaque pays, hein, parti, qui proposent, qui font des propositions lors de ces grandes rencontres. Alors, pour le cas de la COP 16 dernière, qui a eu lieu à Riyad, face à toutes ces décisions prises ou à on va dire au sortir de cette grande rencontre sur la désertification, la lutte contre la désertification dans le monde, quelle a été l'implication de la Côte d'Ivoire et comment est-ce que cette rencontre-là peut aider justement la Côte d'Ivoire à avoir des financements, bien évidemment, pour déployer son plan national de lutte contre la désertification?
Alors, merci Ghislain. L'un des grands enjeux de cette COP à Riyad, pour moi, était faire en sorte que nous puissions tisser des partenariats, que nous puissions avoir des financements extérieurs. Heureusement, cette année, avec la présence du ministre Assaoré, de bien d'autres personnalités, des séances de travail, des rencontres ont eu lieu. Et je peux citer la rencontre entre le ministre Assaoré et le PDG du FEM qui a abouti, et peut-être que on ne peut pas l'affirmer pour l'instant puisque nous n'avons pas encore eu l'apport promis, mais à une promesse d'appui pour la lutte, par exemple, contre, du moins pour la restauration des terres dégradées par l'opage illégal. Il y a d'autres promesses qui ont été faites au niveau du financement. Il y a des partenariats qui ont été tissés, tant au niveau institutionnel qu'au niveau des ONG. Il y a vraiment, on peut le dire, on peut l'affirmer, il y a eu un gain notable au niveau de cette COP-là, parce que nos autorités se sont impliquées. Il y a eu aussi un engouement effectif au niveau des ONG et même des particuliers. Cette année, nous sommes revenus vraiment fiers de cette COP-là, parce que nous avons tiré profit des 2 semaines que nous avons passées à Riyad. En plus de cela, on peut noter que la Côte d'Ivoire a été portée à la tête du groupe africain, de par ma personne, point focal de la Côte d'Ivoire.
Félicitations alors.
Merci. Je suis donc le président du groupe africain. Aujourd'hui, nous pouvons diriger certains débats à notre faveur et en faveur de l'Afrique, bien entendu. Donc, Monsieur Ghislain, je crois que c'est satisfait que nous sommes revenus parce que l'enjeu était de taille, mais nous avons eu les mains chargées à notre retour avec des promesses de financement, des partenariats que nous avons tissé.
Vous avez cité le FEM, c'est le Fonds pour l'Environnement Mondial.
Oui.
Et par exemple, quels pourraient être les types de projets environnementaux qui pourraient être financés? Vous l'avez aussi donné un indice concernant la restauration, vous avez dit.
Des terres dégradées par l'opariage illégal.
Illégal. Oui. Alors, au-delà de ce champ d'action, quel type de projets environnementaux pourraient être financés par des organisations comme le FEM ou bien d'autres organisations?
Oui, il y a, comme nous sommes dans le domaine de la dégradation des terres, il y a la restauration de toutes les terres dégradées. Tout à l'heure, j'ai souligné que l'un des facteurs de la dégradation des terres, c'est les pratiques culturales. Nos pratiques culturales sont dépassées. Donc, nous pouvons, avec l'appui des bailleurs, inculquer à nos populations de bonnes pratiques culturelles. Nous pouvons les sensibiliser, comme l'a dit Madame Agmani tout à l'heure, parce que il y a quelque chose que nous omettons très souvent, c'est la sensibilisation. Il faut sensibiliser tant qu'on peut. Ensuite, former. Si dès le bas âge, à l'école, on arrive à former nos enfants aux bonnes pratiques environnementales, on aura fait un grand pas vers la préservation et la restauration de notre environnement.
Alors, sur ce point, il y a aussi une question intéressante, la question des priorités du gouvernement dans la lutte contre la désertification à l'horizon 2030. Est-ce qu'à ce niveau-là, on peut avoir quelques axes prioritaires sur lesquels vous travaillez en ce moment?
Oui, il y a des axes prioritaires. D'abord, un, restaurer les terres qui sont dégradées. Et restaurer ces terres-là veut dire mettre en place des espèces qui ont cette caractéristique de croître rapidement et qui fertilisent le sol. Donc, si nous arrivons à faire le planting de ces espèces-là, nous aurons nettement gagné une partie de la bataille. Ça, c'est l'une des priorités. L'autre priorité, comme on l'a dit, c'est la sensibilisation. Parce que tant que nous ne sensibilisons pas les populations à des bonnes pratiques, à une conduite éco-citoyenne, tout ce que nous ferons sera vain. Enfin, il faut trouver des solutions alternatives aux grandes plantations, et avec la destruction de grandes superficies des terres ou d'écosystèmes. Il faut trouver des solutions alternatives. Il faut montrer aux uns et aux autres que nous n'avons pas besoin de détruire des grandes parcelles pour avoir un revenu conséquent. On peut faire du manioc sur des parcelles moyennes et en tirer grand profit. Il faut donc avoir des semences de qualité résilientes au changement climatique, des semences qui sortent de nos laboratoires comme le CNRA, comme bien d'autres laboratoires de la Côte d'Ivoire.
Mmh. Alors, face à tout cela, ce plan qui est mis en avant et qui est dans son déploiement, quelles recommandations en tant que société civile vous aimeriez faire pour renforcer l'impact de cette stratégie nationale sur le terrain?
Merci, Ghislain. D'abord, je voulais féliciter déjà le gouvernement qui, cette année, est allé à la COP avec un document, le portefeuille de projet. Ça, c'est à saluer. Ça rend plus crédible les projets. Et sur place, le bailleur feuillette, il voit ce qui l'intéresse et il s'engage. Et je pense que c'est ce qui nous a donné beaucoup d'ouverture, beaucoup d'opportunités. Mmh. Et ça, c'est à saluer. Je pense qu'il faut insérer ça dans toutes nos actions à venir.
Mmh. Et vous aussi, en tant que société civile, effectivement, vous étiez à la COP 16 sur la lutte contre la désertification. Votre rôle, justement, est-ce que vous pouvez nous l'expliquer brièvement et puis l'impact également de vos actions à ce grand événement sur l'environnement?
Oui, nous y étions et nous sommes revenus vraiment satisfaits parce que nous avons vécu du concret. Nous avons rencontré les partenaires, échangé, discuté et nous avons trouvé vraiment beaucoup d'opportunités. Beaucoup d'opportunités et nous avons partagé notre expérience au niveau de Ngaloa. D'autres pays sont en train d'aller expérimenter cela. Et notre agenda de...
On pourrait revenir sur cette expérience-là. Pouvez-nous l'expliquer brièvement?
Oui, l'expérience, c'est qu'il faut mieux sensibiliser pour mieux porter le projet. Les femmes ont compris le bien fondé. Elles ont été bien sensibilisées, bien formées. Parce qu'il faut dire que c'est un projet intégré.
Et là-bas, quel était le problème exact? Avant vos actions, quelle était la situation?
Les femmes étaient dans la pauvreté, je dirais. Et il n'y avait même plus de terres pour pouvoir cultiver. Parce que les terres sont aussi dégradées, comme le dit M. Kouadio. Parce qu'une fois qu'on a fait une culture sur 2-3 ans, vous voyez que la terre n'a plus la même valeur. Donc, elles étaient dans une situation de précarité. Et avec notre arrivée, aujourd'hui, elles ont été formées en la matière de pisciculture. Donc, ce sont des femmes qui gèrent leur ferme piscicole elles-mêmes. Parce qu'elles ont été formées. Et à côté de cela, elles restaurent la mangrove l'écosystème qui est d'une importance capitale pour le changement climatique, la lutte contre la désertification.
Et aussi même pour la question de la sécurité alimentaire et tout cela.
La question de la sécurité alimentaire. L'expérience, c'est quoi? Elles gèrent leur ferme piscicole et même sur la lagune, il y a une zone qui a été délimitée et interdiction de pêche. Dont les un tiers des alevins qu'elles gèrent, de la ferme piscicole qu'elles gèrent, sont déversés dans la lagune. Pour pouvoir alimenter, empoisonner la lagune. Donc, voilà un peu. Et donc, c'est elle-même qui gère le projet. C'est elle-même qui a le projet en main. Nous les supervisons juste et bon.
Donc, de telles actions ont été présentées à la COP16.
Oui, de telles actions ont été présentées. Nous avons pris le cas de Ngalois.
On va reprendre. Ouais, de telles actions, allez-y.
De telles actions ont été présentées à la COP16. Nous avons même fait un side event au pavillon de la Côte d'Ivoire. Mais la petite parenthèse, c'est que la Côte d'Ivoire a fait fort, très fort, comme le disent les Ivoiriens, parce qu'un pavillon de taille qui se laissait admirer par tous les passants.
Ouais.
Donc, félicitations encore au gouvernement de la Côte d'Ivoire pour ce pavillon.
Le pavillon était bien animé, il y avait du contenu.
En tout cas, pour la beauté, il n'y avait rien à dire. La décoration, il n'y avait rien à dire. Et nous avons essayé de donner le meilleur de nous-mêmes en venant animer le pavillon avec nos side events.
C'est cela. Alors, voilà, nous acheminons vers la fin de cette émission, en tout cas très très enrichissante avec tous les éléments et toutes ces informations que vous nous apportez en ce qui concerne la lutte contre la désertification en Côte d'Ivoire. En termes de collaboration, il y a bien évidemment la participation de la Côte d'Ivoire à la COP16 et les avantages aussi qu'on tire de notre participation à ces grands événements. Monsieur Kouadio nous parlait de cette promesse du Fonds environnemental mondial. Alors, mais en ce qui concerne justement la collaboration, comment les acteurs locaux, les communautés, les organisations internationales sont impliqués dans cette lutte-là? Et puis, quels sont les outils ou approches innovants utilisés pour sensibiliser la population davantage? On commence avec vous, Madame Adjoumani.
Je dirais que c'est une complémentarité d'action. Le gouvernement doit, entre autres, garantir un cadre institutionnel propice à la mise en œuvre d'actions d'envergure. Et je pense que cela existe déjà, parce qu'après la COP, nous avons eu des séances de travail avec les autorités pour les projets dont nous avons parlé dans le portefeuille. Donc, nous travaillons en bonne collaboration avec le gouvernement et avec les autorités compétentes.
Monsieur Kouadio, Monsieur Jean Kouadio.
Oui, comme Madame Agmanou le dit, c'est une complémentarité. Et puis, il faut comprendre que la lutte contre la désertification, des fois, ne dit pas son nom, mais c'est la lutte. Nous prenons, par exemple, un projet que mène quelqu'un qui dit qu'il va faire du planting d'arbres. Mais il est en train de restaurer les terres en le faisant. Peut-être que il n'est pas écrit noir sur blanc, restauration des terres. Mais le projet va amener à la restauration des terres. Et cette personne n'a pas besoin d'être forcément au ministère de l'Environnement ou avoir une ONG dont la dénomination est souvent notre environnement. Donc, c'est dire que à tous les niveaux, il y a la lutte contre la dégradation des terres. Peut-être qu'on on ne sait pas qu'on est en train de mener cette lutte, mais on le fait à tous les niveaux.
En termes de mots-clés, par exemple, à retenir, des mots de valeur pour mener à bien cette lutte-là, ce serait quoi, par exemple, avec vous, Madame Adjoumani, un mot-clé important à faire passer, surtout aux populations, pour vous, c'est quoi, par exemple, dans cette lutte contre la désertification?
Je reviens encore sur la sensibilisation. L'éducation environnementale, c'est très important pour moi parce que c'est la base. Comme M. Kouadio le disait tantôt, si les enfants, les élèves aujourd'hui sont bien formés, demain notre avenir est gagné. Mais pour la génération présente, il faut une bonne sensibilisation et donner une nouvelle éducation pour un comportement éco-citoyen.
Merci à vous, Madame Adjoumani Florentia. Je rappelle que vous représentez l'ONG Sauvons l'environnement, secrétaire général du conseil d'administration. Et puis avec vous, Monsieur Jean Kouadio, point focal de la lutte contre la désertification en Côte d'Ivoire. Le mot-clé, ce sera
une conduite éco-citoyenne.
Conduite éco-citoyenne. Voilà. Merci. Merci infiniment. Et puis voilà, nous arrivons au terme de cette émission Solution Climat consacrée aujourd'hui à la lutte contre la désertification en Côte d'Ivoire. Grand merci à nos invités, Monsieur Jean Kouadio, point focal de la lutte contre la désertification en Côte d'Ivoire, et Madame Florentia Adjoumani, secrétaire générale du conseil d'administration de l'ONG Sauvons l'environnement. Merci pour vos éclairages précieux et puis également pour votre engagement sur le terrain. Merci.